Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume l'actu des jeux vidéo, du gaming, de l'industrie avec un tout petit peu d'analyse. On essaye en tout cas. Je m'appelle Patrick Béja et j'ai la joie et le plaisir de recevoir aujourd'hui encore une fois Mister J.K. Loret. Comment vas-tu, J.K.?
Salut Patrick, bah écoute, ça va, je commence à être bien installé chez toi là, je pense que tu m'as fait un petit lit dans un coin là, je pense que je vais rester tous les 15 jours, tous les mois oui. Je reviens tranquillement.
Quoi. Oui exactement, je pense que tous les mois tu pourras revenir, on se fait une bouffe tout ça et puis on enregistre voilà. L'émission du même coup.
J'ai un abonnement à l'année maintenant.
Exactement, J.K. bien sûr de ZQSD, mon podcast de jeux vidéo préféré, encore plus que le Rendez-vous Jeu, et aussi merci. De laruche.com, d'où oui. Il a également ramené le sieur Mathieu Chartier, qui est officier également à laruche.com et qui est lui aussi un amateur de jeux vidéo averti. Comment vas-tu, Mathieu ?
Bah écoute, très bien Patrick. Bonjour, bonjour J.K. Bon, J.K., on se connaît un peu, on se parle oui, souvent, qu'on travaille ensemble, forcément, journée, ouais. mais je suis très heureux de faire ce podcast avec toi, Patrick, pour parler de jeux vidéo, qui est une de mes grandes passions, entre autres, au niveau de la... avec la high-tech et tout ce qui tourne autour. Donc voilà, c'est je suis ça. Très content d'être là.
Bah, de toute façon, on le sait tous, hein, c'est des sujets un petit peu cousins. Donc on est heureux de te recevoir, Mathieu. Et on a un programme aujourd'hui qui n'est pas le plus fourni qui soit. Mais bon, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que moi j'ai tendance à faire des émissions de 2 heures. Donc là, si on se limite à 1 heure, ça sera pas mal non plus.
Ce sera un miracle.
Oui, ça serait un miracle quand même. J'avoue que j'ai pas trop d'illusions. Mais on va vous parler de la PAX et des annonces de Blizzard qui ont été faites à la PAX East il y a une petite dizaine de jours. On va vous parler de... Mathieu et J.K. vont peut-être nous donner leur avis sur les Steam Machines puisque c'est un petit peu leur fonds de commerce, les PC et les PC de jeu.
Ça, on aime bien. C'est vrai qu'on aime bien ouais. Ça.
C'est vrai qu'on en a parlé la dernière fois et j'ai hésité à en reparler parce que mon avis a peut-être un petit peu évolué. Et puis bon, J.K. et Mathieu me disaient qu'eux, ils avaient des choses à dire. Donc tant qu'à faire, comme c'est le sujet du moment, on va en remettre une petite couche. Et puis on aura toute une série de news consoles sur des jeux en développement annoncés, décalés, tout ça. Et sorties qu'on va couvrir également. Donc on y revient dans la deuxième partie de l'émission. Pour cette première partie d'émission, donc, les annonces de Blizzard à la PAX, qui ne sont pas des annonces mirobolantes, mais qui sont quand même des annonces sympathiques. Et puis, j'avoue, moi, avec mon passif avec la société dont j'ai été employé pendant quelques années, j'y prête toujours une attention un petit peu particulière, même si je ne suis pas forcément complètement mordu de tous les jeux qu'ils éditent. C'est le cas notamment de Heroes of the Storm, que j'aime bien, mais bon, sans plus. Mais je sais que vous êtes nombreux à pratiquer le jeu parmi les auditeurs. Et ils ont annoncé donc un nouveau personnage, Sylvanas. Ils ont annoncé la possibilité de couper le son des joueurs de notre équipe, ce qui pourrait limiter un petit peu l'aspect harcèlement, qui est l'un des grands combats.
Ouais, ouais. Parce que sur League of Legends, c'est un peu la plaie de League of Legends, d'après ce que je comprends, parce que je sais. Ouais.
C'est le gros problème de ces jeux-là, les gens qui qui jouent pas aussi bien que d'autres et donc qui se font engueuler parce qu'ils font des conneries. C'est vrai que c'est une atmosphère un peu toxique.
C'est quand même le seul jeu où on se fait plus insulter par sa propre équipe que par l'adversaire.
Mais le problème, c'est que le fait.
Paradoxal.
J'en parlais la semaine dernière dans mon émission anglophone Pixels avec un gros fanat de MOBA justement, enfin surtout de Heroes of the Storm, et je me disais mais si jamais on va couper le son de nos coéquipiers, ça va hyper nuire, ça va vachement nuire au travail d'équipe. Et ce qu'il me disait, qui n'était pas bête du tout, c'est qu'en fait, c'est un point de données qui peut être utilisé par le développeur pour mettre les gens qui coupent le son de leurs coéquipiers souvent ensemble. Donc, en fait, d'une certaine manière, si tu es un peu asocial, si tu n'es pas prêt à travailler avec tes coéquipiers, à jouer de manière en équipe, eh ben ça te donne un moyen d'être catégorisé et de te mettre dans des équipes qui te conviennent, entre guillemets, ouais. Plus. Donc, c'est une approche c'est intéressante.
Mmh. Ouais, puis en plus, l'approche de Blizzard, c'est vrai que c'est facilité énormément la communication entre les joueurs et de la coopération sans forcément passer par la voix. Donc, ils ont toujours été assez bons là-dessus, Blizzard.
Ouais.
Et puis, il faut aussi permettre à de nouveaux joueurs qui découvrent ce genre de jeu de s'y mettre. Et si leur première partie se passe en se faisant insulter de tous les côtés, ça risque d'être un peu pénible pour eux. Du coup, avoir cette option de pouvoir ne plus entendre les reproches des autres joueurs de son équipe et pouvoir se concentrer sur son jeu et apprendre à jouer correctement, c'est super intéressant. Surtout que Blizzard, c'est aussi amener ces nouveaux joueurs à ce genre de jeu. Donc ouais. C'est pas étonnant, en fait.
C'est sûr, c'est un peu, enfin tous les gros acteurs de ce domaine, de ce type de jeu ont ce problème et tous essayent de le résoudre de différentes manières. Il y a des recherches très intéressantes qui sont faites par Riot. J'avais regardé une vidéo qui avait été liée dans les commentaires d'un épisode précédent sur la recherche, presque recherche fondamentale, sociologique, psychologique, qui font sur les meilleurs moyens d'améliorer l'ambiance des jeux et de supprimer l'ambiance toxique qu'ils ont dans certains jeux. C'est vraiment des choses très intéressantes. Est très complexe. Je crois que personne n'a la réponse ultime, mais bon, c'est bien.
C'est un vrai problème et c'est bien qu'ils essayent de trouver des solutions. Alors, on verra lesquelles s'imposeront, mais c'est vrai que sur ce genre de jeu, c'est des jeux quand même coopératifs et il est important qu'il y ait une ambiance sympa et friendly qui règne. Et on espère que ce sera le cas sur Heroes of the Storm.
C'est sûr. La possibilité d'avoir des clans de 9 joueurs, ça veut dire qu'on aura toujours besoin de... Enfin, ils pourront pas avoir deux équipes de 5 qui tournent en parallèle, mais par contre, il pourra y avoir des équipes de 9, c'est-à-dire qu'on aura toujours assez de monde a priori pour faire une équipe de 5. Et puis, le championnat Heroes of the Dorm, Dorm en anglais, c'est Dormitory, ça veut dire le
dormoir.
Le dormoir, ouais, enfin...
Non, le dormoir, c'est pas français...
Le dortoir, voilà, merci. Dortoir d'université, en fait, dans les universités américaines. En fait, c'est un championnat, à la fin duquel ils vont payer aux gagnants leurs frais d'université, qui sont, comme on le sait, aux États-Unis, très très élevés, de la même manière que certaines universités payent les frais d'université de sportifs. Et d'ailleurs, certaines universités ont commencé à payer les frais d'université de e-sportifs de haut niveau, notamment sur League of Legends, Dota, tout ça. C'est d'autant plus intéressant que ça va être diffusé sur ESPN, qui est la chaîne de sport aux États-Unis, qui est une énorme affaire aux US. Enfin, c'est vraiment l'une des chaînes les plus regardées.
Qui, si je ne me trompe pas, qui appartient à Disney ou je me trompe ? Non, peut-être je me trompe.
ESPN, je ne suis pas sûr, c'est possible. Ouais.
Je crois qu'ils ont une chaîne de sport. Mais...
Je crois que tu as raison, JK. Je crois que ça appartient à Disney en main basse. Mais ça fait à peu près la moitié du monde, donc.
Voilà. Mais l'autre moitié, c'est Google, quoi. C'est...
Voilà.
Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que ESPN, c'est une chaîne de sport normale hyper importante. Et le fait d'y passer, il y avait eu notamment l'international de Dota qui était passé sur ESPN. C'est encore une étape vers la légitimisation de l'e-sport.
Ah oui, c'est très important. Hein. Effectivement, il y a quelques facs américaines qui commencent à prendre comme ça à leur charge les bourses de certains e-sportifs renommés, mais ça reste des petites facs. Et le fait que ESPN se mette à diffuser ce genre de compétition, je pense que ça va aussi intéresser les grands noms des facs américaines, celles qu'on connaît tous et qui sortent aussi bien des personnes très intelligentes et très douées dans ce qu'elles font, mais aussi dans le sport, comme on le disait tout à l'heure, baseball, football américain, basket. Là, ça s'intéresse au e-sport, c'est tout bénef, quoi. C'est tout bénef pour notre industrie, tout bénef pour ce qu'on peut considérer effectivement comme un sport, parce que quand on voit le niveau de certains, effectivement, ce sont de vrais sportifs.
Ouais. Bon, c'est pas un sport physique, mais même s'il faut un entraînement physique relativement, assez sérieux, parce que les gens ils s'entraînent 8 heures par jour, tout ça, mais Mais bon, je me demande si l'e-sport deviendra un jour aussi... Enfin, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse, mais si l'e-sport sera considéré comme de manière aussi importante qu'un vrai sport, ou si ça restera poker. Parce que le poker, à un moment, enfin, il y a une dizaine d'années, ça commençait à monter énormément. Et puis c'est resté relativement confidentiel, même s'il y avait des championnats un petit peu partout.
Là, on parle des États-Unis, mais en Asie, c'est déjà considéré comme un sport. Enfin, en Corée.
En Corée du Sud,
c'est. Bon, après, ça reste un cas vraiment très particulier, la Corée. Mais moi, je sais pas. Aux États-Unis, ils sont extrêmement attachés au sport et à la diffusion de médias du sport. Donc, pourquoi pas l'e-sport, mais ce sera surtout jamais aussi populaire qu'un Super Bowl, quoi, évidemment.
Oui, non, c'est sûr. Peut-être dans 50 ans, hein, quand tous les gamers auront grandi.
J'avais un avis assez contraire là-dessus. Et puis quand j'ai vu, en fait, les dernières compétitions de League of Legends, le nombre de personnes qui assistent à ça, les stades remplis, je me suis dit qu'en fait, il y a un vrai potentiel et que pourquoi pas, effectivement, dans quelques années, y arriver à une popularité, peut-être pas le football, mais voilà, un sport comme, je sais pas, un peu le tennis. Vraiment, il y a... C'est en train de grossir, on ne sait pas où ça va s'arrêter.
C'est vrai. D'ailleurs, moi, j'ai regardé, pas plus tard qu'aujourd'hui, la finale de l'ESL Hearthstone, le Legendary, je ne sais plus comment il s'appelle, ESL Legendary quelque chose, la finale à Katowice, en Pologne. Et c'est vraiment sympa à regarder, quoi. C'est intéressant, ouais. Et je me suis rendu compte, en parlant d'Hearthstone, on va y venir avec la nouvelle aventure d'Hearthstone, mais je regardais... les cartes qu'ils avaient en main, je me disais, bon, ben moi, je ferais ci et ça avec les mêmes cartes. Et eux, ils faisaient, mais complètement autre chose, quoi. Et évidemment, des trucs beaucoup plus intelligents que moi. Et c'est étonnant de se rendre compte à quel point ces joueurs... Il y a une vraie différence dans la manière de jouer, même dans Hearthstone, qui est un jeu qui ne nécessite pas des réflexes de folie. C'est juste de la stratégie, quoi.
Bah là, c'est un peu plus comme le poker, comme tu disais, quand le poker était diffusé à la télé. Et moi, c'est pareil, quand je jouais un peu au poker, je regardais les mecs jouer et je me disais, bon, bah là, je ferais ça. Et puis les mecs, ils font complètement autre chose et ils ont raison parce qu'ils sont bien meilleurs. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'enthousiasme envers la diffusion de ce genre de jeu. Et même Hearthstone, et même peut-être encore plus Hearthstone que du MOBA ou par exemple, qui est peut-être plus facile à comprendre. Enfin, Hearthstone, il faut quand même connaître les cartes, mais je sais pas, c'est peut-être plus télégénique.
C'est beaucoup plus facile à appréhender, c'est sûr.
Voilà.
Tu comprends ce qui se passe. Si déjà, tu connais pas partout, parfaitement des jeux comme StarCraft ou comme les MOBA, justement, si tu sais pas exactement quoi suivre, tu comprends rien. Hearthstone, bon, tu peux comprendre un peu, suivre au moins ce qui se passe, quoi. D'ailleurs, Hearthstone parle... Oui, pardon, oui. Mathieu.
Bah, j'embraye sur Hearthstone, pas forcément sur la nouvelle aventure dont tu vas nous parler, mais juste pour dire que quand le jeu est arrivé, Blizzard avait l'air de savoir très tôt qu'il y avait un gros, gros potentiel pour Hearthstone au niveau e-sport, que moi, j'ai pas saisi parce que justement, on est habitué à avoir du e-sport sur des jeux très techniques, de gameplay vraiment très précis, alors qu'Hearthstone, c'est plus une tactique, c'est un jeu qui va prendre plus de temps, regarder une partie, ça va être plus long, etc. Il se passe pas grand-chose parfois. Et en fait, la partie e-sport d'Hearthstone a décollé quasiment immédiatement. Et c'était un peu surprenant, je trouve, mais c'est tant mieux.
Bah, détrompe-toi, figure-toi. Enfin, l'e-sport a très clairement décollé très très vite avec Hearthstone. Mais Blizzard était toujours très prudent, moi qui l'ai vécu de l'intérieur.
D'accord.
Je peux te dire que les développeurs étaient... C'était une petite équipe, ils voulaient s'assurer. Il y avait clairement un frémissement dès le début, mais ils voulaient s'assurer que ça prenne avant de se lancer à corps perdu dedans. Donc c'est venu... ils voulaient s'assurer que la communauté était vraiment prête à soutenir la chose. Donc c'est pas venu tout de suite, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que le potentiel était évident pour tous ceux qui regardaient, mais bon, c'est toujours difficile de faire la part des choses entre l'excitation du début, qui risque de durer 2 mois, et quand les fous du truc et les fous de jeux de cartes à collectionner et ce genre de public est dedans, et on ne sait pas si ça va retomber quand un public plus large commencera à jouer au jeu. Donc, ils ont quand même pris un petit peu, ils ont été un peu prudents, quoi.
Voilà. Bon, en tout cas, Blizzard fait bien les choses parce qu'ils ajoutent du contenu régulièrement.
Et justement,
je te laisse nous en parler.
Alors, la nouvelle aventure, avant d'en parler quand même, ils ont présenté un petit peu l'interface de la version téléphone qui arrive dans les à peu près 2 mois à venir de Hearthstone, donc sur iPhone et téléphone Android. Et l'interface était... Bah, comme on pouvait s'y attendre finalement. Elle a l'air de fonctionner correctement. Le truc, c'est qu'évidemment, il faut une interface particulière parce que sinon, c'est illisible. Mais ce qu'ils ont fait finalement, c'est qu'ils ont agrandi comme si on zoomait sur les éléments importants de l'interface, les minions, enfin les cartes posées sur le board et les cartes qu'on a en main. C'est ça les éléments les plus importants. Et ces éléments sont un petit peu plus gros et le reste est un petit peu plus petit avec des éléments différemment placés. Donc bref, ça arrive sur iPhone et sur Android.
Ça va faire très mal.
Ouais, vous êtes des joueurs de Hearthstone, vous deux ?
Moi, j'ai beaucoup joué, je joue encore un peu de temps en temps, mais j'avoue que cette version iPhone et Android que je fantasme depuis le début, parce que forcément, l'iPhone, on l'a toujours sur soi, et on a peut-être toujours envie de faire un petit Hearthstone quand on a 5 minutes devant soi. Bon, là, la démo et les images que j'ai vues en fait, de l'interface, effectivement, a l'air d'avoir été pas mal adaptée, mais j'attends quand même de voir ce que ça peut donner sur un smartphone un peu petit, type 4 pouces, etc. J'attends de voir.
Mais en tout cas, c'est ça qui fait peur. Ouais. C'est à mon avis, en dessous de 5 pouces, voire de 5,5, ça va être compliqué. Quoi. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais vu, Patrick, mais quand il y a Hearthstone qui est sorti sur Android, donc les tablettes, il y avait une sorte de hack en fait, et il y avait moyen de l'installer sur un téléphone de 5,5 pouces, comme le Galaxy Note 3 par exemple, qui fait 5,7. Et je l'avais vu tourner sur un Galaxy Note, et par contre, l'interface n'était pas du tout adaptée, donc c'était quand même un petit peu merdique, mais c'était rigolo. Mais moi, juste, Hearthstone, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé d'aimer ce jeu, enfin d'apprécier.
Et t'as pas accroché ?
Le problème, c'est que je suis nul, mais je suis vraiment nul, mais vraiment mauvais.
Non, mais je confirme.
Ouais, en plus, voilà, c'est-à-dire que Mathieu me regardait jouer, j'arrivais même pas à battre le tutoriel, en fait.
Oh là là ! Ah oui, effectivement,
j'étais vraiment pas bon dans le jeu-là. Et alors que ça me plaisait, tu vois, je me suis dit, tiens, mais ouais, y a un truc et tout. Et puis, en fait, au bout de trois défaites contre l'ordinateur, alors que j'étais censé rapidement passer à autre chose, je me suis dit, bon, écoute, je crois que ça va pas être pour moi, quoi. Donc, faudrait que je m'y remette, peut-être, mais voilà.
Bah, c'est vrai qu'il y a des gens. Il y a des gens qui n'y arrivent pas, quoi. Il y a des gens qui, en fait, ils ne comprennent pas le fait qu'il faut réfléchir à quelle carte tu vas mettre et à quelles conséquences ça va avoir au moins sur le tour suivant. Et les gens, il y a des gens qui regardent simplement les cartes qu'ils ont en main, ils se disent « Oh bah celle-là, elle a l'air pas mal. Allez, pof !» Voilà. Et généralement, tu vois, c'est ces gens-là qui n'y arrivent pas bien. C'est vrai.
Je passe pour un idiot aux yeux de tes auditeurs, mais c'est pas grave, j'assume complètement.
Bah, t'es d'accord que c'est ce que tu fais, non ? T'es là,
ouais, mais en fait, j'essaie de comprendre le raisonnement, la logique, etc. D'accord. Mais je sais pas, tu vois, c'est comme le démineur, j'ai jamais été foutu de jouer correctement démineur. Et bah là, c'est pareil pour Hearthstone, quoi. C'est triste, mais c'est comme ça.
Attention, Lucas, quand même. Là, quand on parle démineur.
Ouais, ça devient quand même. Tu dis, c'est moi qui te fais passer pour un idiot. Auprès de mes auditeurs.
Je m'enfonce.
Creuses ton trou.
Ah, le problème, c'est que JK, quand il voit qu'il lui reste 5 cristaux de mana à jouer, il prend une carte qui a 5 cristaux de mana. Donc à partir de là, bon.
Il prend une carte qui a 5 cristaux de mana ?
Bah oui, forcément, il la pose, il se dit j'en ai 5, alors je vais tout claquer, je vais mettre mes 5 cristaux sur sur le board. Alors il pourrait jouer une carte de 2, enfin voilà. Il y a
d'accord. Oui, non, mais les cartes à 5 peuvent être une bonne. Un bon choix.
Parfois.
Mais... Ça me donne envie de jouer là. Bon, vite, qui sont les missions ?
Expliquez-moi, là, vous allez me faire un cours magistral de Hearthstone après, parce que...
D'accord.
Mais Jika, tu peux venir dans le jeu, puisque Blackrock Mountain Adventure sort. Qui a 5 ailes qui vont être débloquées semaine après semaine sur le même modèle que ce qu'avait fait Blizzard avec Naxxramas. Voilà. Bon, là, le petit désavantage, c'est que toi, Jika, je pense que t'as pas beaucoup de pièces d'or dans le jeu. Donc, il va falloir que tu payes avec de l'argent réel.
Tu vas être à découvert, ouais.
Voilà. Et ça va te coûter 7 euros par L, alors que si tu avais eu des pièces d'or d'avance, tu aurais pu payer en pièces d'or.
Ouais.
C'est une bonne occasion de venir dans le jeu.
Ou alors 25. Mais le problème, c'est que s'il finit même pas le tutoriel, tu vois, dans Blackrock Mountain, il va pas y arriver du tout, quoi.
Non, c'est vrai que
j'aurais pas du mien dans ce numéro.
Mais donc, effectivement, 25 euros, je crois, pour tout débloquer d'un coup en précommande, qui va arriver cette semaine, je crois, la précommande.
Voilà, le 19 mars,
ça
donne droit à un dos de cartes exclusif quand on peut.
Que moi, je crois que je vais l'acheter, parce que j'ai pas dépensé un sou dans Hearthstone jusqu'à maintenant, mais je crois que je vais l'acheter parce que j'avais fait, entre guillemets, l'erreur de ne pas acheter Naxxramas avec de l'argent réel. Et en fait, je me suis mis à dépenser tout l'or durement gagné que je gagnais dans les ailes de Naxxramas plutôt que de m'acheter des packs avec l'or, des packs de cartes avec l'or que je gagnais. Donc, je me suis dit, je vais pas faire la même erreur deux fois. Là, je vais l'acheter. Et puis, comme je suis pas suffisamment bon pour gagner pour gagner de l'argent, assez d'argent pour devenir autonome en arène, bah, je vais simplement payer, enfin, tu vois, une extension à 20-25 euros tous les 6 mois pour un jeu auquel je joue tous les jours. Je me dis, bon, allez, c'est pas grave, je vais faire ça et les packs, je les prendrai juste avec les arènes, quoi.
C'est sûr que, voilà, le temps qu'on peut passer sur Hearthstone pour 0 euros à la base fait qu'une fois qu'on peut claquer 25 euros, on peut se laisser tenter vu le nombre d'heures qu'on y a déjà passé. Ça va, c'est rentable.
C'est ça. Et donc, il y aura 31 nouvelles cartes, mais la mécanique que j'ai trouvée la plus intéressante, bon, au-delà du fait que ça sera cette ambiance Warcraft que les anciens connaîtront bien, Ragnaros contre Neltharion, qui sont des boss de Blackrock, qui étaient dans des donjons, dans des raids de Blackrock Mountain, justement, dans la montagne de Roche Noire, ou Blackrock en français, je ne sais pas s'ils l'ont francisé. Donc, la mécanique est sympa, c'est qu'il y a un focus sur les dragons. Et le truc qui est très cool, c'est que, en fait, les dragons ne sont pas simplement des dragons qui vont avoir des synergies entre eux quand on va les poser sur le board, mais qui vont aussi, et peut-être même surtout, avoir des synergies quand on a un dragon en main. Ce qui veut dire que ça garde cet esprit un petit peu de puissance du dragon, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'en mettre 12 sur le board avec des mecs et des murlocs et ce genre de trucs qu'on a connus avant, mais simplement le fait d'en avoir un en main, donc de le garder quand même, on peut avoir un gros dragon en main à 9 mana ou 8 mana ou ce que c'est, et ça va quand même avoir un effet sur les cartes qu'on va jouer. Je trouve ça assez intéressant comme nouvelle mécanique, quoi. C'est
ça qui est fort avec Blizzard. Moi, j'ai jamais joué à aucun trade card games avant, je connais pas Magic, etc. Mais avec Hearthstone, en fait, j'ai découvert le style facilement. Et puis à chaque extension, à chaque fois qu'on ajoute de nouvelles cartes, etc., je découvre de nouvelles mécaniques possibles. Et puis ça me fait repasser des heures et des heures dans tous mes decks pour essayer d'en faire quelque chose de bien. Mais voilà, je trouve que c'est progressif sur la durée et on nous laisse, on garde notre intérêt par rapport au jeu et c'est très très intelligent. Et voilà. J'ai hâte de jouer.
Moi aussi. J'ai hâte d'avoir BlackRock qui sortira, que je dise pas de bêtises, c'est en avril.
Oui.
Un moment en avril, le 10 avril, je crois. Attendez, je vais rechercher Hearthstone, d'ailleurs, j'arrête pas de dire Hearthstone. Blackrock Mountain, voilà, ils doivent le dire sur le site lui-même. Tac. Bon, bref, on s'en fout. Je sais plus où est la date. En avril, à un moment.
Il faut se préparer pour Ragnaros parce qu'à mon avis, ça va être du solide. Quand on voit la fin de Naxxramas, comment c'était difficile, là, je pense que ça va être balèze.
C'est très possible, ouais, effectivement. Donc voilà, on a fini pour Hearthstone et j'ai effectivement très hâte. Et pour la suite, c'est Overwatch, le nouveau jeu qui a été annoncé à la BlizzCon, donc le FPS que j'avais eu la chance de pouvoir essayer là-bas. Ils ont annoncé deux nouveaux personnages et le fait que la bêta commencera à l'automne 2015. Alors, j'étais un petit peu déçu, j'avoue, parce que l'automne 2015, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ça peut aller en France en particulier, enfin, dans certaines cultures, dans certains pays, ça va jusqu'au 21 décembre. L'automne.
C'est vrai que... donc, ouais, là, c'est vrai qu'on est à la fin de l'année, là, ouais.
Voilà, donc soit c'est en septembre, dans le meilleur des mondes, le 1er septembre, parce que dans certains pays, ça commence au début du mois, les saisons.
Ouais.
Donc le 1er septembre.
Après, si c'était vraiment à la fin de l'année, ils auraient peut-être dit fall 2015 ou je sais pas.
Ah, mais c'est ce qu'ils ont dit, automne 2015.
Ah, oui, fall, oui, je suis bête. Voilà, oui, bien sûr.
Donc,
je veux pas être pessimiste, mais je sens la fin de l'année quand même.
Bah, le truc, c'est que Blizzard n'est pas connu pour sortir, respecter les dates au début de la plage de leurs annonces, quoi. Ça se trouve, le jeu est quasiment prêt, ils se disent on va le sortir en septembre, on est sûr, il sera prêt en août, donc, mais on prend un peu de marge quand même, mais bon.
Et ce serait une bêta fermée, j'ai pas fait attention.
Ah, je suis sûr, oui.
Ouais, ce sera une close bêta, oui, comme ils font d'habitude, ouais.
Ah bah, je suis sûr qu'au début, ça va commencer au moins comme une close bêta, c'est certain.
Comme d'hab, ouais. Bien sûr. Bah, ça, c'est cool. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y a un des deux personnages, donc la nana, donc Zarya, je crois, c'est ça.
Ouais.
Elle est basée sur une employée de Blizzard.
Non.
Non, c'est des conneries. Ah merde.
Non, c'est pas le cas.
C'est pas le cas.
L'autre,
bah, je sais pas, j'ai vu une news passer dans.
C'est un troll. C'est un troll.
Non, c'est qu'il y a une community manager qui s'appelle Zaraya. Ah, j'ai oublié. Ouais. Community manager de Hearthstone, je crois, ou Diablo.
Hearthstone, ouais.
Aux États-Unis, mais c'est juste un nom qui ressemble un peu. Ça n'a aucun rapport.
D'accord, parce que je sais pas, j'ai vu un article, je crois, sur un Polygon ou un The Verge, où tu vois une photo d'une femme qui lui ressemble vraiment en plus. Donc c'est pour ça que je me demandais.
Non, c'est Zeraya. Zeria. Ah,
j'arrive pas à retrouver l'article en plus, ça m'énerve. Donc je sais plus où j'ai vu ça, mais.
En tout cas, ce sera le premier tank féminin du jeu. Voilà, et après Blizzard a expliqué que c'était aussi pour répondre à une demande de diversification au niveau des personnages. Donc ils ont fait un personnage comme ça avec un fort accent russe, qui est une ex-championne d'haltérophilie, qui a son canon à particules et qui a un champ de gravité comme ça qui peut réunir tous les ennemis en un même endroit. Et ça a l'air d'être assez sympa à jouer. Et puis au moins c'est un personnage qui a du caractère et qui a du charisme, quoi.
C'est vrai que j'ai vraiment apprécié le fait qu'ils répètent encore une fois que pour eux la diversité dans le jeu vidéo était quelque chose d'important. Et non seulement le fait d'avoir des personnages féminins dans le jeu, mais aussi le fait que les différents types de corps, les différents body types, étaient quelque chose qui pouvait être important aussi. Et que là, en l'occurrence, effectivement, Zaria, elle est mastoc, quoi.
C'est une manière d'intéresser un public plus large et puis de changer un peu parce que l'annonce de McCree, qui est l'autre personnage annoncé à la PAX, bah lui par contre il est ultra classique, quoi.
Il sort
du western, il s'appelle le Peacemaker, enfin voilà, on peut le trouver, il a son dédail. C'est vraiment hyper classique. Là, avec Zaria, on sort un peu des sentiers battus, c'est sympa.
C'est vrai. Mais moi, je trouve que j'aime beaucoup McCree aussi. C'est vraiment le cowboy type film de Sergio Leone et tout. Et alors, je ne vais pas rentrer dans les différentes capacités qu'ils ont, mais juste pour dire qu'il y a un truc qu'ils font très, très bien, Blizzard, c'est le fait de donner l'impression aux joueurs qu'ils sont tous complètement overpowered. Ils sont complètement OP, ils ont une puissance qu'on estime ridicule quand on est en face, et de l'autre côté, je vois le lien que m'a donné Jika.
Ça se trouve, c'est des conneries, mais je suis sûr d'avoir vu ça sur un site américain, parce que là, c'est Reddit, donc Reddit, c'est toujours un peu louche,
ouais,
hein. On est d'accord,
Je la connais pas, celle-là. Je crois pas que ça soit du CM de chez Blizzard.
Ouais, c'est vrai qu'en même temps, tu connais mieux que moi les employés de Blizzard. Là.
Ouais, mais peut-être, hein, mais...
En tout cas, il y a un air d'ensemble, en tout cas, sur la photo, mais bon.
Ouais. Bref.
Non, mais ce que tu nous disais, Patrick, c'est ça, c'est qu'ils interagissent. Ils amènent des nouveaux persos qui ont l'air d'être terriblement balèzes. Et en fait, ils arrivent à trouver un équilibre autour de ça, quoi.
C'est ça. C'est qu'ils ont certains aspects qui sont complètement surpuissants. Et donc, c'est jouissif à jouer. Mais en même temps, ils ont des désavantages aussi qui sont contrés par d'autres personnages du jeu. C'est hyper, hyper... le coup ultime de McCree qui ralentit le temps autour de lui, mais uniquement pour lui, et qui tire sur tout le monde quand les réticules sont arrivés sur les têtes des gens en bout de 3-4 secondes, il tue tout le monde en un coup. Enfin, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est trop puissant, quoi. Pareil, le coup ultime de Zaria qui fait une sorte de puits de gravité où tous les personnages qui sont pris dedans sont immobilisés et se baladent dans le puits de gravité pendant 5 secondes. Tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin bon, si vous voulez plus d'informations là-dessus et que vous parlez anglais, je fais un podcast avec un ami anglophone. Ça s'appelle Overwatchers et on détaille tout ça en détail. Donc vous pouvez aller écouter ça. Le dernier épisode, on l'a fait la semaine dernière. Ça s'appelle Overwatchers. Un autre truc dont je voulais parler, c'est un panel qui était hyper intéressant, qui a eu lieu à la GDC, donc à la Game Developers Conference, toujours en rapport avec Blizzard. C'est un panel qui a été présenté par Josh Mosquera, le développeur actuel le directeur de Diablo 3, et il explique comment les problèmes qui ont été posés au lancement de Diablo 3, qui a eu, on le sait, beaucoup de problèmes, et la manière dont ils ont relevé la barre jusqu'à la sortie de Reaper of Souls et le développement qui continue, qui est, je pense, universellement accepté comme une excellente version de Diablo 3 et qu'ils ont complètement corrigé les problèmes qu'il y avait dans Diablo 3. Et c'est une conférence, bon, qui est en anglais, mais qui est hyper, hyper intéressante. Le lien original que j'avais vu n'existe plus, mais il est possible de le trouver. C'est Diablo 3, Road to Redemption with Reaper of Souls. Donc, Road to Redemption with Reaper of Souls, la route vers la rédemption avec Reaper of Souls. C'est hyper intéressant. Mmh. Peut-être que c'est parce que moi, je l'ai vécu de l'intérieur, mais franchement, je pense que n'importe quelle personne qui s'intéresse à l'industrie du jeu vidéo devrait aller regarder ça. Ça se trouve sur YouTube et je suis sûr ailleurs, parce que c'est passionnant de voir comment ils ont, pourquoi ils ont eu les problèmes qu'ils ont eu, comment ils ont réagi au départ et comment ils ont corrigé ces problèmes sur le long terme. Pour moi, c'était passionnant, quoi.
Mmh. Bah, c'est clair que c'est le genre de conférence qui donne super envie souvent d'assister aux conférences de la GDC parce que c'est bourré de choses comme ça, la GDC, et c'est passionnant quand, enfin, je veux dire, en général, il n'y a rien de plus intéressant pour moi qu'un développeur qui revient sur un jeu passé, qui explique les problèmes, ce qui allait pas, ce qui allait, ce qui marchait, etc. Et c'est super intéressant là-dessus. Et c'est vrai que Diablo, enfin, ils ont fait un boulot de dingue parce que quand c'est sorti, ça a quand même été une déception sur énormément d'aspects. Et aujourd'hui, Reaper of Souls a complètement redistribué les cartes et vraiment d'une manière assez admirable. Franchement, ils ont fait un super boulot, quoi. Et ils se sont vachement remis en question. Enfin, c'est l'impression que j'en ai, en tout cas. J'ai pas encore vu la conférence dont tu parles, mais j'ai l'impression qu'ils se sont remis énormément en question et qu'ils ont accepté plein de critiques. Et c'est vraiment bien.
Ouais. On est tout à fait d'accord. C'était ouais. Et puis c'était une période intéressante chez Blizzard aussi, et c'est bien retransmis. Enfin, retranscrit dans la conférence, il y avait des... Enfin, forcément, c'était une ambiance particulière. Enfin, bon, bref, allez voir la conférence.
Oui. Road to Redemption place, with Reaper of Souls. Je me mets un peu à leur place, je me dis que c'est quand même pas facile, parce que d'un côté, on a un jeu qui sort, qui se vend par millions et par palette entière, parce que ça a été un carton monumental. Du coup, il y a trop de joueurs sur les serveurs, donc les serveurs ont du mal à suivre, donc le lancement est un peu raté. Puis derrière, on reproche plein de choses au jeu. Et en fait, on est coincé entre cet état d'esprit où le jeu se vend très très bien et a l'air de cartonner, et en même temps... Il faut prendre en compte les retours de certains pour adapter le jeu, pour lui donner une vie sur le long terme qui satisfasse les plus gros joueurs, j'ai envie de dire. Donc ça doit pas être facile quand même de se positionner vis-à-vis de ce genre de problématique. Hein.
Ouais, et c'est justement tout ce qu'il détaille avec les causes et les conséquences dans la conférence, et il explique ça très très bien. Donc
bon, bref, allez voir ça du coup, parce que moi je l'ai pas vu encore
regarder.
Aussi, et je vais y aller.
Très bien. Bon, c'est fini pour la partie Blizzard avec la PAX East, à laquelle donc ils vont depuis 3 ans maintenant. Alors à chaque fois que je le mentionne, la PAX East, j'ai un souvenir ému de la présentation de Hearthstone, de la conférence de présentation de Hearthstone à laquelle j'étais.
Qui était à la PAX, ah ouais.
Bah non, oui,
pas,
oui,
pas,
j'étais.
Pas cette année, mais oui.
Je faisais partie du press tour quand on a présenté Hearthstone, en fait.
Ah ouais,
donc
ça chose.
C'est moi qui avais pris les journalistes. C'était intéressant. Ouais. Et la réaction, enfin j'en parle régulièrement, mais la réaction des journalistes à la sortie de Hearthstone.
Ouais, c'était un peu au sponsorcil et bon, ok.
C'était sceptique, on va dire. Je peux dire que le 8 heures plus tard, quand ils avaient pu y jouer pendant des heures sur le show floor, ils faisaient plus la même tête.
Ouais, ça marche.
Et on sait ce qui s'est passé. Une confidence par rapport à ça, c'est assez drôle en fait, c'est que j'avais pas suivi du tout l'événement. Et j'ai un copain qui travaille dans le jeu vidéo aussi qui m'appelle et qui me dit oh là là, Blizzard vient d'annoncer un jeu de cartes. Et en fait, dans ma tête, un jeu de cartes, c'était Mario Kart, c'était un jeu de karting.
Ah oui.
Et je ne comprenais pas du tout où Blizzard voulait.
Oh merde.
Et j'imaginais des orques comme ça sur des cartes en train de s'envoyer.
Warcraft.
J'en pouvais plus. Et je me disais, mais c'est n'importe quoi. Et il a fallu que j'aille sur Internet, tomber sur YouTube sur une présentation. Et je me suis fait, ok, non, Mathieu, tu délires complètement. C'est pas de ça dont il s'agit.
Effectivement.
Fais gaffe, ça va leur filer des idées. Hein. Fais gaffe, Mathieu.
Peut-être, on ne sait pas.
Ouais,
un Blizzard. Blizzard. Comment il pourrait s'appeler
Warcraft, je sais pas.
Ouais, mais non, non, c'est trop.
World of Warcraft.
Non. Peut-être, ouais.
Il y a moyen de faire un truc.
Il y a moyen de faire un truc.
Avec tout l'univers qu'ils ont, ils pourraient largement faire des personnages.
Ils peuvent faire un jeu de n'importe quoi, en fait.
Attends, les circuits
dans... Par contre, Blizzard, je prends des royalties sur cette idée.
Ah bah ouais, tu pourrais te faire embaucher par Blizzard, ça, c'est déjà...
Bon, bah, je vais vous faire parler parce que je suis encore malade et j'ai un petit peu de mal, comme vous l'entendez. Donc, vous me disiez que vous aviez un avis à partager sur les Steam Machines. Est-ce que vous en pensiez, en fait ?
Bah Mathieu, vas-y, hein, toi, si tu veux commencer.
Si je veux commencer, bah, je peux commencer. Non, bah, les Steam Machines, effectivement, ça émoustille un peu tout le monde sur cette industrie. Il y a certains qui y voient les consoles de demain, enfin la console qui pourrait être la console unique ouverte de demain. D'autres qui pensent que bah, voilà, avec ses Steam Machines, Valve va complètement mettre de côté Sony et Microsoft. Bon, j'ai un peu de mal à y croire quand même.
Oui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont aussi loin quand même. Hein.
Bon, sur les forums, il y en a. Il y a toujours des gens pour aller très très loin sur les
forums. Oui, mais ça, oui, sur les forums, on trouve de tout, j'avoue.
Sur les forums, on peut s'arrêter là, je pense.
Mais bon, là c'est devenu concret. C'est devenu concret récemment avec la GDC, parce que bah, tu as fait
une émission dessus,
Patrick. Mais du coup, les machines sont montrées vraiment. Il y a SteamOS dont la version 1 définitive est quasiment en place et prête pour la fin d'année, quoi qu'il arrive. Le contrôleur qui lui aussi est finalisé, qui sortira en fin d'année également. Donc voilà, on y est, là, la Steam Machine, c'est concret, c'est cette année, c'est 2015.
Et on en parlait dans l'épisode précédent, effectivement.
Alors, est-ce que ça va être un carton ? Je ne sais pas. Moi, j'ai eu la chance de tester une Steam Machine avant les Steam Machines, sans qu'elle soit une Steam Machine. Alors, je m'explique, j'ai utilisé pendant une semaine l'Alienware Alpha, qui est la même machine, en fait, qui sortira par Alienware en tant que Steam Machine, mais pour l'instant, elle est sous Windows.
Bah, justement, on en parlait avec Daniel, mon pote, qui est de chez Dell, voilà. Que tu connais peut-être d'ailleurs.
Oui, je connais un petit peu, ouais.
Ouais. La dernière fois, donc effectivement, la Steam Machine Alienware, c'est un Alienware Alpha avec une couleur différente.
Avec un contrôleur et sous SteamOS, c'est avec une couleur différente, voilà. Et voilà. Et moi, ce que je mettais à la fin de mon test de cette machine, de l'Alienware Alpha, sous Windows, c'est que, en fait, ça me suffisait en tant que Steam Machine et que je suis content que ma Steam Machine soit sous Windows. Alors, c'est un peu paradoxal, mais je m'explique. En fait, j'ai du mal à comprendre comment des gens vont être capables d'investir pas mal d'argent quand même dans du hardware PC, parce que c'est des PC qui coûtent assez cher, entre 500 et 1000 euros, quand même qu'ils soient assez puissants pour faire tourner les jeux, mais pour se priver de toutes les possibilités qu'offre Windows. Alors ça, pour les fabricants, c'est sympa d'avoir une architecture open et puis de se dire qu'on ne va pas payer Windows, parce qu'on fait quelques économies sur le prix de la machine, mais pour l'acheteur, lui, il se retrouve un peu bloqué sur SteamOS, dont on sait qu'il est une version améliorée de Steam Big Picture, mais qui ne fait pas grand-chose d'autre, quoi. La partie multimédia, elle n'est pas encore développée, même s'il y a des choses qui arrivent après, on n'y est pas encore, quoi. Et je trouve que c'est un peu bizarre de demander aux gens de payer aussi cher une machine, sans forcément offrir Windows avec, qui permet justement de transformer ce petit PC qu'on va installer sous sa télé, en plein d'autres choses, notamment passerelle multimédia, lecteur de tout ce qu'on veut, évolutif sur les logiciels, etc. Donc, je suis assez dubitatif. J'attends de voir vraiment la réaction du marché par rapport à ça. Mais voilà, moi, c'est là où j'en suis. Je me dis quand même, c'est dommage de ne pas avoir Windows sur une Steam Machine, parce que SteamOS, ça a beau être peut-être très bien, mais c'est quand même c'est se contenter du jeu. Et puis, c'est aussi une ludothèque de jeux est moins importante.
C'est ça le souci aujourd'hui. C'est que... Mais il y a quand même un gros effort. Et là, ils annoncent 1000 jeux à la sortie des Steam Machines disponibles.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ouais. Sur Linux, alors que sur Steam, on est à 3000, je crois, ou au moins 3000 sur PC.
3005, 3008, je crois.
Ouais. Ouais. Donc bon, c'est quand même... Bon, même 1000 jeux, c'est pas rien, c'est sûr, mais il y a quand même 3, y a quand même, c'est quand même 3 fois moins. Et puis aujourd'hui, en plus, quand tu vois que Windows est quand même... J'ai l'impression que c'est de plus en plus abordable. Enfin voilà, quand t'as Windows 8, t'auras Windows 10 gratuit. Microsoft fait quand même beaucoup de choses pour qu'on puisse avoir un Windows légal chez nous, entre guillemets, tu vois. Et c'est un souci. Après, le concept en soi est génial. Enfin, il est vraiment pas con. Hein. Moi, c'est vrai que ça me faisait envie. Même leur contrôleur, là, apparemment, il est pas mal. Bon, il remplace pas complètement une souris et un clavier, mais ça semble être un compromis assez intéressant. Mais le problème, effectivement, c'est le genre de machine trop complexe pour le très grand public qui, de toute façon, s'en fiche et préfère aller acheter une PS4 ou une Xbox. Et c'est le genre de machine pas assez complète pour le joueur PC qui, de toute façon, préfère jouer sur PC quitte à le brancher sur sa télé ou acheter un Steam Link, donc le petit boîtier à 50$ qui va permettre de streamer tes jeux sur ta télé.
Ce qui est marrant, c'est que Valve, du coup, ne prend pas le risque industriel au niveau des Steam Machines parce qu'ils mettent en place SteamOS et puis ils disent aux constructeurs, vous pouvez créer des Steam Machines, nous, on vous vendra notre manette et puis on vous permettra d'utiliser le système qu'on a mis en place. Mais à côté de ça, ils prennent le risque sur Steam Link, donc je pense que c'est un produit sur lequel ils ont un peu plus d'ambition, qui est tout simplement un produit qui permet de streamer les jeux depuis son PC qui se trouve dans sa chambre ou dans son bureau, via la télé du salon. Et je pense que c'est une solution qui est en train de se démocratiser pas mal chez les joueurs PC, qui permet de profiter de la puissance du PC principal qu'on s'est fait dans sa chambre ou dans son bureau, sur sa télé, de manière vraiment convaincante. Donc voilà, c'est aussi là un petit coup d'arrêt pour les Steam Machines parce qu'on se retrouve avec une autre façon de faire, une autre proposition qui coûte pour le coup beaucoup moins cher et qui est très intéressante.
Bah, à vrai dire, c'est j'y réfléchissais après notre émission, notre dernière émission, et c'est vrai que je suis pas sûr de comprendre finalement à qui s'adressent les Steam Machines parce que comme vous le dites, si on va se faire une machine comme ça, autant mettre Windows dessus. Pourquoi ? Pas pour le plaisir de payer de l'argent pour mettre Windows, mais parce que sous SteamOS, on se coupe de 2/3 des jeux qui sont disponibles. Alors évidemment, tous les jeux ne sont pas hyper intéressants, mais il n'y a quand même pas tous les bons jeux, tous les jeux qu'on voudrait sous SteamOS et sous Linux.
Et puis, il n'y a pas les jeux Blizzard, Steam Link.
Oui, non, mais ça, bien sûr, effectivement.
Non, mais je veux dire, ça reste quand on est à Steam, donc Blizzard Origin, t'oublies par exemple. Les jeux EA, c'est quand même pas rien, tu vois. Ça
représente EA, il y en a beaucoup sous Steam quand même.
Oui, il y en a quand même, mais bon, pas tous, quoi.
Attends, est-ce que je dis une bêtise ? Est-ce qu'il y a tous les jeux ?
En fait, il y a beaucoup de jeux
de moins en moins.
Il y a Steam, par exemple, même Ubisoft, mais qui t'oblige à installer derrière Uplay. Donc tu peux les lancer depuis Steam, mais en fait,
ouais,
ça,
donc
c'est
peut-être
juste une
qu'ils
passerelle
sont pas sur.
Donc je pense que cela
sur
SteamOS.
Effectivement, là je vois tous les jeux Ubisoft, ils sont que sur Windows, quasiment tous, ouais.
Tu te coupes de Far Cry, tu te coupes d'Assassin's Creed, de Dragon Age, de Blizzard, enfin de World, enfin c'est quand même énorme, quoi. C'est quand même beaucoup, quoi. Là, ça commence
après,
à faire
après
beaucoup,
moi je trouve quand même un gros avantage à cet
Les jeux Blizzard, y jouer à la manette, il faudra vraiment que le Steam Controller soit méga méga convaincant, mais peut-être en même temps.
Peut-être à part Overwatch éventuellement, si vraiment c'est bien adapté, mais bon.
Overwatch, à mon avis, je serais très étonné si Overwatch ne sort pas sur console. Hein. Peut-être immédiatement, mais ça semble calibré pour. Mais
bien sûr.
Enfin bon, bref.
En tout cas, leur pad, leur Steam Controller a l'air d'être quand même assez excellent, donc j'ai quand même bien hâte de l'essayer. Et puis je trouve un intérêt à tout ça, c'est que ça pousse quand même les fabricants de PC à considérer de manière très sérieuse, plus qu'avant en tout cas, un format mini PC qui soit capable de faire du jeu, ce qu'on avait assez peu. En fait, il y avait quelques fabricants qui s'y intéressaient, mais assez peu. Là, aujourd'hui, ils regardent quand même ça tous avec un certain intérêt, à se dire on va faire des petites machines de jeu compactes, qui chauffent pas trop, mais qui délivrent 60 FPS sur la plupart des jeux en Full HD 1080p, et ça, c'est chouette.
Parce qu'effectivement, le coût du PC qui se branche sur la télé pour pouvoir jouer... en fait, le PC de jeu, bien sûr, pourquoi pas, ça peut être une alternative très intéressante. Je crois que la question se pose vraiment... pour SteamOS finalement, plus que les Steam Machines en tant que telles. Moi je me demande si finalement SteamOS n'était pas une réaction à Microsoft qui semblait aller vers des formats un peu plus propriétaires et s'écarter un petit peu du jeu sur PC, et que maintenant qu'ils ont fait marche arrière sur ces choses-là, qu'ils ont donné des signes de bonne volonté envers Valve, enfin des signes gros comme des maisons, Valve se dit pas bon bah... Ok, ça y est, bah, ça, hein. Notre truc, l'effet désiré est accompli. Et donc, voilà, c'est une réaction, et là...
Ouais, enfin, bon. Microsoft, en plus, à la GDC, on a remis un petit coup en présentant vraiment bien Direct 3D 12, DirectX 12, avec des nouvelles fonctions graphiques qui vont arriver, etc., qui seront réservées à la Xbox et au PC, et je pense que voilà, aussi...
Ah oui, c'est ça. Hein.
Quand Microsoft s'énerve, ouais, ça peut aussi intéresser les joueurs, donc...
C'est vrai que Valve, ils avaient grogné il y a pas longtemps sur Windows. Gabe Newell, il y a quelques années, il avait dit, enfin voilà, il s'était vraiment posé en contrepoids de Windows et justement en misant sur SteamOS. Mais c'est vrai que le discours de Microsoft a changé, comme tu dis. Donc bon.
Ouais. Donc moi, je crois que pour ma part, la solution, la vraie solution, sera plus dans le domaine du. Dans le domaine du Steam Link que des Steam Machines.
Le streaming, voilà.
Voilà, ouais.
C'est ce que je fais depuis quelques temps là, chez moi. Quoi. J'ai un petit PC Intel Nux sous ma télé qui me permet de streamer mes jeux Steam. Et ça marche super bien, d'autant plus que moi je suis en RJ45, j'ai cette chance-là. Donc ça fonctionne même sur les jeux qui demandent une certaine réactivité. Et je trouve que cette solution, elle mérite d'être essayée par plus de gens et elle devrait effectivement se démocratiser.
Avec le Steam Link, ouais, c'est...
Bien sûr.
C'est $50 le Steam Link. Hein, donc,
C'est ça, exactement. Ouais. Donc bon, effectivement, c'est au final, je ne suis pas si convaincu par les Steam Machines que ça. Donc, mais je ne sais pas,
peut-être qu'on se trompe.
En fait, peut-être qu'on se trompe, mais à vrai dire, s'ils avaient fait quelque chose d'un petit peu plus cadré, s'ils avaient fait les Steam Machines avec... trois catégories de produits. Genre, il y a la Steam Machine de base, la Steam Machine Plus et la Steam Machine Plus+. Et qu'on aurait eu plus de simplification pour l'acheteur si on avait été un petit peu plus guidé et que ces Steam Machines base plus avaient été mises à jour tous les ans, par exemple. Une machine de base, je ne sais pas, hyper simple à 300€ qui serait l'équivalent finalement d'un NUC, là, le Intel NUC, le New Unit of Computing, hyper simple qui ne ferait évidemment pas tout tourner mais qui serait là juste pour faire ce qu'il fait à 300€. Une autre à 500, une autre à 800 et plus, on aurait pu avoir beaucoup de simplifications pour le marché, ça aurait pu être plus intéressant. Là, j'ai l'impression que le cœur de Valve n'y est plus. Ils sont pas en train de dire on y va à fond, je sais pas, ils y vont parce qu'ils disent qu'ils allaient le faire, presque.
C'est peut-être une deuxième étape, là ils sont vraiment dans la phase, je pense, à intéresser un maximum de fabricants, donc ils leur disent venez avec nous, on vous fournit SteamOS, on vous permet de vendre avec un Steam Controller. Comme ça, les fabricants qui sont un peu feignants, ils peuvent dire « Ah bah j'ai ce PC que je peux recycler avec un SteamOS, je peux le vendre en expliquant que c'est une Steam Machine. » Ils essayent de se mettre dans le wagon. Pourquoi pas ? Après, peut-être que dans un deuxième temps, il faudra, comme tu le dis très bien, segmenter un peu tout ça, donner des marqueurs un peu plus précis pour le grand public, pour que justement ils puissent s'y retrouver en sachant « J'achète telle Steam Machine, d'accord, mais je vais jouer à quoi avec ?» Dans quelles conditions, avec quelle qualité graphique, ça c'est important quand même. Et effectivement, il faudra insister là-dessus, peut-être dans un deuxième temps.
Ouais. Bon, et ben voilà pour notre avis mise à jour sur les Steam Machines. Les nouvelles rapides, quelques petites news en plus qu'on a fait passer, qu'on a noté dans ces deux semaines qui viennent de s'écouler. La nouvelle mise à jour du système de la PlayStation 4 va arriver et elle amène une chose qui est assez attendue, c'est le Suspend Resume, comme on dit en anglais. Je sens que tu l'attends, Jika. Tu peux expliquer
ça. Justement, en fait, oui non, parce que j'ai du mal à comprendre l'intérêt de la fonction. C'est-à-dire que quoi ça
va c'est comme pour les consoles portables. C'est-à-dire que tu peux l'éteindre et la rallumer.
C'est ça, c'est de la veille. Enfin, tu
te mets en veille. Tu te mets en veille, quand tu la relances, tu reprends ton jeu ou tu peux l'éteindre sans avoir...
Autant sur une portable, oui, ça a du sens parce que tu es dans le métro, etc. Tu passes ton temps à ouvrir ta console et la fermer, surtout sur la 3DS. Mais alors sur la PS4, j'avoue qu'au pire, tu éteins la télé, tu changes de chaîne.
Non, mais... Moi, je suis hyper pour, carrément. Parce que tu. Justement, c'est comme un. Enfin, je sais pas, ton ordinateur. portable, tu le fermes, tu le rouvres, oui, et oui. Là où t'étais, tu vois, c'est, tu t'es au milieu de ton jeu, vraiment. Alors tous les jeux seront pas compatibles, mais une bonne partie le sera.
La plupart.
T'es au milieu de ton jeu, tu veux t'arrêter. Je sais que c'est genre super first world problem, le problème de ouais. de riche, tu vois, mais le fait de rallumer ta console, de relancer le jeu, de le rechercher, de machin. Si je peux rallumer ma console et que c'est direct là où j'avais mis pause. Enfin, c'est plus cool, quoi.
Ouais, moi,
j'ai plus
moi,
envie de changer de CD dans ma console déjà. Tu vois, rien que ça,
ouais,
ça m'emmerde.
Non, bien sûr, bien donc, sûr. Non mais, ah, ouais, mais à ce moment-là, le truc, enfin, moi, je sais pas, tu dois t'absenter une heure, tu fais start, tu fais pause, t'éteins ta télé et tu reviens, tu rallumes ta télé.
Et la planète, JK.
Sur start.
Voilà.
Ouais, est-ce que tu penses à la planète, JK?
First world problem, comme tu dis.
Bah, justement.
Non, mais
justement,
oui,
non, first world problem.
Effectivement, c'est une bonne fonctionnalité. Mais pour moi, ça va pas changer radicalement les choses.
Ah,
hein,
mais non.
On sait bien,
mais
non, bien sûr.
Évidemment,
et
évidemment.
Non, mais j'exagère un petit peu. Et,
Moi, je viens d'apprendre que JK adore les lumières allumées. Donc, bon, en fait, c'est ce qu'il veut. Hein.
Ouais, voilà.
Bon, c'est ensuite, d'ailleurs, je sais pas si la Xbox One le faisait déjà, ça. Peut-être pas.
Je suis pas sûr. Je sais que la Xbox One est quand même plus au taquet.
Merde, JK, ta femme.
Excusez-moi. Non, c'est bon, j'ai coupé. Ah, mais non, j'ai pas coupé.
Ça s'appelle pas couper, ça, voilà.
C'est l'ensemble Bluetooth qui est connecté au téléphone, bref, on s'en fout. Ah, ouais. la Xbox, je sais qu'elle est beaucoup plus à ce niveau-là, au niveau des fonctionnalités,
ah bah oui,
de résumé, etc. Elle est super...
Bah après, ce qui est bien, c'est
mais
que
je sais pas
Sony
si elle fait le résumé. Ça...
Ouais,
pardon
mais
non,
Sony avait annoncé ça il y a 2 ans, quand même.
Bah oui, c'est
bien
pour
qu'il
ça
le
que...
fasse à un moment, voilà.
Ouais.
Et puis, ils ont mis aussi 60 les images, enfin, les vidéos à 60 images par seconde pour ce qui est...
SharePlay,
voilà, ouais, donc ça c'est très bien.
Vous avez déjà utilisé SharePlay? Moi je m'en suis jamais servi.
Moi,
c'est cool dans l'idée, mais.
Moi je stream pas, je partage pas, je joue que pour moi. Je suis un peu.
Non,
sur
ouais,
le
d'accord,
jeu,
ok. D'accord.
Voilà.
Les quelques expériences que j'ai eues par rapport à des amis dans mon entourage, etc., c'est pas terrible. Hein. C'est-à-dire que le problème, c'est que t'es hyper dépendant de la qualité de ta connexion. Et dès que c'est un tout petit peu. Enfin, déjà, si t'es pas câblé, si t'es pas en Ethernet, c'est même pas la peine. Tu vois, c'est comme le PlayStation Now, quoi. C'est des technologies qui sont là, qui fonctionnent à peu près, mais qui sont pas suffisamment parfaites pour être vraiment intéressantes.
Écoute, enfin, chez moi, ça marche très bien.
C'est bon,
je suis câblé, mais.
Ouais, t'es câblé, bon.
Câblé, oui, j'ai je sais plus, 200 descendants et 20 montants.
En fibre, voilà, ouais.
Ouais, enfin, oui, fibre, ouais. Mais, et vous savez que je pourrais même monter à 800 descendants et sans doute beaucoup montants, je le fais même pas, ça sert à rien.
Ouais.
Ah bah non, au
800,
bout d'un moment,
ouais, c'est pas mal.
Bah ouais.
On voit plus la différence.
Bon, c'est ça.
Ouais.
Titanfall, le deuxième épisode a été confirmé en développement, bon, ça n'étonnera personne, et confirmé comme étant multiplateforme. Donc voilà, Titanfall 2, que j'avais bien aimé, j'y ai joué pendant, 3 jours à sa sortie,
ouais,
mais j'ai
voilà.
beaucoup aimé les 3 jours. Hein. Les 3 jours, ça m'a vraiment plu. Mais...
Malheureusement, ouais.
C'est un jeu qui mérite sa deuxième chance, quoi. Il a été
ouais,
un succès
ouais.
commercial parce que ça a été un gros buzz, il a été un peu mitigé sur la critique. Maintenant, bah, ils ont appris plein de choses chez Respawn, et puis se donner la chance de faire un Titanfall 2, c'est bien. Donc
ouais.
on espère qu'il sera cool. Ah. Surtout
Est-ce que j'espère
Vince, il a Vince Ampella, là, le PDG de Respawn, qui expliquait que il avait compris les erreurs à ne plus commettre. Donc déjà, au niveau des...
Le fait de ne pas avoir un... De ne pas
voilà,
avoir
des,
de
cartes,
de,
des
de
packs
jeu...
de cartes qui
non,
soient
ah, oui.
réservées à ceux qui avaient payé $25 pour le Season Pass. Et
oui,
il a dit que c'était une
sûr.
Erreur. Et bien effectivement, ça divise la communauté dès le départ. Et puis ça
ouais.
rend la gestion du matchmaking très difficile. Ah, il a compris ça, donc...
Bah,
Donc,
voilà. compliqué, c'est compliqué quand tu quand t'as pas autant de joueurs que Call of Duty, par exemple.
Ouais,
ça, c'est sûr. Ouais.
Ouais. C'est ça, le problème.
Il y a aussi le fait que je ne sais plus ce que je voulais dire. Si,
ah.
une partie solo. Moi, j'espère qu'il y aura une partie solo.
Ouais. Bah c'est un peu ce qui avait été. Enfin, ce qui est rigolo, c'est qu'au final, quand on parle de Call of Duty, tout le monde dit, mais le solo, on s'en fout, nous, on veut jouer multijoueur. Par contre, quand Titanfall sort, ah bah oui, mais il n'y a pas de solo.
Exactement. Exactement.
Après,
il y a plein de gens qui s'en foutent, mais il y a des gens qui aiment le solo. Moi,
oui,
j'en
mais
partie,
moi, typiquement, j'aimerais vraiment, avec un concept aussi fun et aussi cool de mecha avec des armures, etc., une vraie bonne campagne solo, ce serait super. Mais le souci, c'est que, pour le 1, ils avaient vraiment le concept, ils avaient vraiment le gameplay qui était super carré, super agréable, super efficace, mais ça manquait de contenu. Tout simplement, c'est-à-dire qu'au bout de, effectivement, au bout de 3 jours de jeu, au bout de 20 heures de jeu, t'en avais fait le tour et le jeu tu le relançais plus.
Mais
et
il était tellement cool cette
cool,
rupture
ouais,
du rythme. Il y avait
cool.
tellement de bonnes idées dans Titanfall. Le, bon, au-delà des mechas qui étaient bon, un petit peu, vraiment la grosse particularité. Le fait, par exemple, que tu aies... Je vais parler de deux trucs. Le pistolet qui vise automatiquement.
Ouais, c'est hyper
malin parce que ça permet aux gens qui sont des débutants de jouer vraiment et d'essayer de s'amuser, d'avoir l'impression qu'ils font quelque chose. Surtout qu'il y a des ennemis contrôlés par l'IA qui comptent aussi. Donc tu peux contribuer. Et même évidemment, ça change rien si t'es très bon, tu dépasses ce stade très vite. Mais si tu débutes, ça te donne l'impression de faire quelque chose. Le pistolet qui vise automatiquement, il est pas super bon, mais au début, ça te permet de te mettre le pied à l'étrier. Le fait que quand tu perds, même si tu perds la partie, tu dois essayer de t'échapper de la carte et tu dois rejoindre l'endroit où tu peux t'échapper. Franchement, moi j'ai eu des scènes mais épiques où on perdait la partie et j'étais dans mon titan et j'essayais d'arriver vers le point d'extraction comme un malade. Je courais comme un fou et puis je saute de mon titan et je cours vers le truc. Enfin, c'était haletant et j'étais hyper content même si j'avais perdu. Donc en fait, ils ont réussi à mon avis, Titanfall 2 a une vraie opportunité quoi.
Ils ont réussi à rendre un jeu multijoueur, un FPS multijoueur, à la fois extrêmement facile à prendre en main et tout de suite épique. Comme tu dis, il y a des moments de dingue, alors qu'au final, ça fait 10 minutes que tu joues. Mais le souci, c'est que ça s'est soufflé beaucoup trop vite à mon goût et au goût de pas mal de gens, finalement. Donc ouais, espérons que le 2, il nous fasse quelque chose de plus costaud à ce niveau-là, quoi.
Uncharted 2, non pas 2, 4. Uncharted 4, si vous l'avez déjà précommandé, que vous avez préparé vos soirées, toutes vos soirées de décembre et de novembre pour pouvoir y jouer, vous aviez prévenu votre femme, envoyé vos enfants déjà chez vos grands-parents, chez vos parents et tout, et ben manque de peau, il ne sortira qu'au printemps 2016, donc sans doute autour de mars-juin. Annonce un petit peu surprenante quand même, parce que c'est le gros morceau de Sony pour cette fin d'année.
Et les fans d'Uncharted, ils attendent. Hein. Le 3 est sorti en 2011, donc ça commence à faire long.
Moi, je suis méga fan.
Ouais, c'est clair, moi aussi.
C'est une décision difficile pour Sony. Difficile. Je pense qu'ils veulent pas se planter comme tous les jeux de 2014 se sont plantés, mais quand même, c'est étonnant parce que c'est leur énorme coup de canon. De la fin d'année et sans départir.
Je trouve que c'est quand même un choix de maturité, quoi, de se dire qu'on va laisser quelques mois de plus au studio pour atteindre un standard un peu plus élevé. En plus, un des directeurs du jeu disait que le jeu était plus ambitieux que prévu. Donc quand on dit ça, on dit aux joueurs, attendez, on vous fait attendre un peu, mais ce qu'on fait, c'est vraiment génial. Et puis voilà, on parlait de Blizzard tout au début. J'aime bien la politique du when it's done, de se laisser le temps de faire quelque chose dont on soit content avant de le sortir. Il y a assez de studios comme ça qui balancent leur jeu pour des raisons marketing et autres. Donc de la part de Sony, c'est étonnant, mais c'est bien, je pense. C'est bien.
Et puis Naughty Dog, ils sont connus pour livrer quand même des jeux hyper finis, hyper carrés, hyper clean. Donc je pense qu'ils jouent vraiment leur réputation là-dessus. S'ils nous sortent Uncharted 4, qui est leur premier jeu PS4, qui est buggé, qui est raté, qui est mal fini, ce serait une catastrophe. Et par contre, il y a un des pontes de PlayStation, je ne sais plus qui exactement, qui a essayé un peu de rassurer les fans en disant « Vous inquiétez pas, là pour la fin de l'année, il y aura des gros jeux annoncés, il y aura du gros AAA pour la fin de l'année exclusif et tout. » Parce que forcément, là en embuscade, il y a Tomb Raider sur Xbox One qui sort lui aussi à la fin de l'année et du coup ça risque un peu de faire pencher la balance au moment des fêtes pour la Xbox One hein. S'ils n'ont pas un gros blockbuster en face Sony de faire un peu mal.
Il y a No Man's Sky que tout le monde attend mais
c'est pas aussi vendeur qu'Uncharted à mon avis.
Je pense pas aussi grand public surtout.
Déjà on sait pas du tout ce que ça va donner et ce sera sans doute pas un jeu qui fera acheter une console, tu vois, enfin je sais pas en tout cas aux yeux de la majorité du grand public. Le mec qui a adoré Uncharted 2 et 3 sur PlayStation et il va forcément quand il voit le 4 arriver il va se prendre une PS4 quoi. Mais du coup oui il va peut-être attendre finalement 2016 pour t'acheter quoi.
Je pense qu'effectivement chez Microsoft ils ont sauté au plafond quand ils ont entendu ça, parce que Tomb Raider, pour ceux qui savent pas, c'est Uncharted avec Lara Croft.
C'est ça.
À peu de choses près.
Donc, c'est
vraiment
mieux. Non, je sais pas.
moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé, hein, ce Tomb Raider.
Oh, c'était génial.
Et j'attends le 2, justement, qui sera l'épisode de la maturité, je pense. Parce qu'il y avait quand même des défauts sérieux sur le premier, mais le deuxième, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Et pour le coup, moi, déjà, j'étais à peu près certain que j'achèterais une Xbox One pour pouvoir y jouer. Là, c'est garanti, parce que ça va me faire mon petit fixe de Uncharted-like de fin d'année. Étant donné qu'il n'y aura pas Uncharted 4. Donc, bon.
Après, moi, j'espère qu'il sortira sur PC rapidement, le Tomb Raider.
Le Tomb Raider ? Ouais, je sais pas s'il sortira tout de suite. Hein, mais...
Ouais, je sais pas non plus.
Et puis, c'est pas la même chose. Tu vois, Tomb Raider, c'est vraiment le jeu où tu joues assis dans ton canapé. C'est un petit
tu joueras sur une petite machine.
Ouais, sûrement.
Voilà. En même temps, c'est une bonne chose, le report d'Uncharted. Ça veut dire que les joueurs un peu fortunés qui ont les deux consoles, ils vont jouer tranquillement à Tomb Raider en fin d'année sur leur Xbox One.
Exactement.
Et puis l'année prochaine, ils seront frais pour attaquer Uncharted 4 quand il arrivera.
Tout à fait, c'est exactement voilà. ça. Et ils seront aussi frais pour attaquer Street Fighter V, qui, d'après une fuite, enfin une erreur sur un magasin en ligne de Capcom qui vendait des goodies, sortirait au printemps 2016.
Voilà, bon. En même temps qu'Uncharted, il arrive
voilà,
le jour.
Voilà, à peu fou. Près. N'oubliez pas que Street Fighter V est aussi exclusif sur PlayStation 4 et PC, mais au niveau console sur PlayStation 4. Donc... Ouais, c'est bon, c'est aussi un titre que j'attends. C'est pas très surprenant. Printemps 2016, disons que c'est mieux que hiver 2016-2017, quoi.
Ah, c'est clair.
Ce qui sera intéressant, c'est de voir qu'on peut jouer, on peut faire du versus fighting, un joueur sur PC, un joueur sur PS4. Donc ça, c'est intéressant à voir.
Bah, c'est vrai que Fable Legends, c'est comme ça qu'il s'appelle le nouveau qui sera dual, qui sera multiplateforme
cross,
et compatible.
Cross-platform.
Cross-platform. Aujourd'hui, franchement, sur PC, on peut faire à peu près tout. Donc, il n'y a plus vraiment de raison de ne pas le faire. On a les manettes, on a le fonctionnement, tout fonctionne bien. Donc, pas de raison de s'en priver. Mais il n'est pas certain que ça arrive quand même. Est-ce que vous êtes des fans de Walking Dead ?
Moi, je suis fan de la bande dessinée et des jeux. Par contre, la série, je l'ai pas, j'ai pas du tout accroché à la série en fait. Je préfère la bande dessinée. Enfin, moi, j'ai commencé par la BD effectivement et oui. Bon, les jeux sont géniaux, hein, mais voilà. Mais globalement, oui, carrément. Ouais.
Tu parles aussi du jeu d'Activision, FPS Walking Dead.
J'y ai joué pour rigoler, mais c'était tellement une catastrophe. Non, je parle des jeux tels. Hein.
D'accord, ok, je comprends.
Parce que j'ai l'accusation, il est affreux.
Robert Kirkman, qui est le dessinateur là, de The Walking Dead, l'homme qui fait la BD et qui s'occupe aussi du shooter.
Pas le dessinateur, mais l'auteur, oui.
L'auteur, pardon, oui. Et qui disait, nous, nos jeux The Walking Dead, ils sont super bien, il expliquait pourquoi, etc. Et dans ma tête, j'avais toujours me remémorer celui dont il ne faut pas parler,
oui,
qui est vraiment très mauvais.
Que tout le monde a voulu oublier. Et voilà. Bien justement, il y a Overkill, j'avais pas entendu parler, en fait, de ce jeu. Ils sont en train de développer un jeu Walking Dead FPS, qui sera en fait, c'est les développeurs de Payday. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu en coopératif, en multi, où on doit faire un casse. Bah là, ça sera un petit peu, ça sera un jeu coopératif multi, Walking Dead,
voilà.
Sur le thème de Walking Dead. Je ne sais pas si vous avez vu le trailer, mais bon, ça n'a rien à voir avec le jeu lui-même. Hein, donc c'est vraiment trompeur, mais le trailer a l'air... Enfin, te fait un effet, ça te replonge immédiatement dans l'ambiance de Walking Dead. Je l'ai trouvé super bien fait. Donc, cherchez Overkill's The Walking Dead trailer. Regardez ça. Je vais pas vous le spoiler. Je vais pas vous raconter ce qui se passe, mais c'est pas mal du tout.
Bah, direct là, les joueurs de Payday qui aiment bien ce concept et qui aiment bien aussi The Walking Dead, je pense qu'ils sont intéressés, hein, parce que en plus on leur a expliqué que ça allait être le gameplay coopératif de Payday, mais dans des cartes un peu plus ouvertes. Avec des zombies et tout, là je pense que déjà ils ont un public.
J'ai jamais joué à Payday, c'est vraiment genre, enfin c'est de la coop contre l'ordinateur et il faut qu'on réussisse le casse parce que c'est un jeu de casse. Il faut qu'on réussisse le casse et voilà, c'est pas du tout joueur contre joueur.
Non, mais c'est très bien fait.
Mais ça m'intéresse parce qu'en plus, mine de rien, c'était un petit peu le truc. De Left 4 Dead, c'était effectivement le coopératif contre l'ordinateur. Bon, il n'y avait pas d'histoire de casse, mais ça pourrait être pas mal, ça. En plus, j'adore Walking Dead aussi. Donc.
Ouais, carrément, ouais, si. Mais ouais, c'est donc c'est ça paye. Il y a pas une histoire que s'il y avait aussi Starbreeze qui participe au développement.
Oui, tout à fait. Oui.
Et Starbreeze, ils font plutôt des bons jeux. Enfin, ils sont plus dans l'expérience solo, hein, ceux qui avaient fait The Darkness, notamment 1 et 2. Le 2 était très très bien d'ailleurs. Et ouais, ça peut être très sympa. Enfin, disons que si Starbreeze arrive à imposer sa patte et son ambiance hyper sombre, qui pourrait bien coller à Walking Dead, et en plus le gameplay, donc des mecs de Payday qu'on fait Payday, ça peut être très sympa. Ouais.
Et donc, il est censé sortir.
Ça, je sais pas. La date de sortie.
Je sais pas. Je sais pas non plus. Je sais pas s'ils l'ont annoncé en fait. Mais du coup, maintenant, tout le monde, enfin vous deux, vous êtes en train de me donner envie, donc je suis curieux du coup. Mais je crois pas qu'ils aient annoncé de date de sortie, effectivement. Alors, les deux news, deux ou trois news qui restent. The Elder Scrolls Online est relancé demain, enfin mardi 17, avec le nouveau sous-titre Tamriel Unlimited. En fait, il se débarrasse de l'abonnement. C'est donc maintenant un pay-to-play, c'est-à-dire qu'on doit acheter la boîte et après, on peut jouer autant qu'on veut. Et je pense qu'il y a des micro-transactions à l'intérieur aussi.
Voilà, il y a un petit premium quand même qui reste.
C'est ça. Et je me demande, je pense que les gens qui ont déjà acheté la boîte, ils peuvent réactiver leur compte. Enfin, leur compte sera par défaut réactivé.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Et franchement, je vais peut-être réessayer parce que j'avais pas adoré au moment où il a été lancé. Mais ils ont beaucoup de temps pour travailler dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je vais peut-être réessayer, quoi.
C'est exactement ce que j'attendais pour m'y remettre, en fait.
Voilà, ça fait partie des grosses déceptions. Là, ils sont tombés, je crois, à 1 million de joueurs. Bah, ils essaient de relancer
pas si mal déjà.
Plus que les. Ouais, c'est pas
ouais,
mal.
Ouais, à mon avis, ils ont plus 1 million de joueurs aujourd'hui.
Ouais, je pense qu'ils sont en dessous.
Hein. Ouais, et puis les versions console arrivent, là, sortent le 9 juin apparemment. Donc, donc voilà, il fallait faire revenir des gens. C'est une bonne. Bah, c'est bien.
De toute façon, ça confirme malheureusement qu'en dehors de Blizzard, enfin de World of Warcraft et de Eve Online et quelques trucs qui vivent depuis longtemps, le modèle à abonnement, il est vraiment rincé. Quoi. Enfin, moi, je sais pas qui aujourd'hui serait assez fou pour lancer un MMO avec 13€ par mois d'abonnement. Quoi. Enfin. Même Blizzard, je me demande comment ils font encore. Bon, après, c'est parce qu'ils ont encore beaucoup de joueurs. Mais c'est quand même impressionnant que ce soit quasiment les seuls avec EVE Online, mais pas à la même échelle en termes de joueurs, qui arrivent encore à faire un système d'abonnement. Quoi.
Ouais, c'est fort. Je suis bien d'accord.
Ouais.
Formule magique qu'il est difficile de reproduire aujourd'hui, voire impossible.
Exactement.
La petite, la petite drogue de Blizzard est plus addictive que celle des autres, il faut croire.
La qualité des jeux est peut-être pas la même. Moi, je suis un petit peu biaisé, mais c'est mon avis.
Ouais, légèrement.
Bon, mais ceci dit, c'est vrai que je pense pas que même Blizzard pourrait ressortir un jeu à abonnement aujourd'hui. Ça me paraît difficile.
Non, je pense.
Enfin, nous disons, il ne faut jamais dire jamais. On sait jamais. On ne sait pas toujours.
Sait
il faut
pas.
Jamais dire jamais. Ori and the Blind Forest est sorti, disponible sur Xbox One et PC. C'était l'un des titres les plus attendus de la Xbox One. Bon, il est aussi disponible sur PC. Il coûte 20€. Et franchement, c'est l'un des plus beaux jeux que j'ai vu de ces dernières années. Il est tellement beau, tellement sublime.
Il est une direction
artistique incroyable. Alors, pour ceux qui savent pas...
Ouais, on a l'impression de voir un dessin animé de Miyazaki, là, avec... je sais pas, c'est vraiment trop beau, quoi.
Ouais, il y a un vrai héritage de l'animation japonaise, mais pas de l'animation japonaise manga classique. Enfin, c'est un mix entre plein de trucs, quoi. C'est même pas graphiquement Miyazaki, c'est la poésie de Miyazaki qui se transmet par le truc, quoi. Et donc, c'est un Metroidvania, pour ceux qui connaissent le titre. Il semble un petit peu difficile quand même, mais si vous attendiez quelque chose de nouveau et d'intéressant sur Xbox One, il faudra sans doute essayer celui-là. Quoi.
Ouais, ça a l'air d'être clairement difficile. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on peut mettre ses checkpoints un peu où on veut, ce qui permet quand même de toujours avancer.
Ouais. Il y a un système de magie, ouais. Ouais, qui en fait tu consommes du mana quand tu poses un checkpoint, donc ça c'est un bon compromis, je trouve. Et moi j'ai super envie d'y jouer. Enfin là je pense que je vais le prendre sur PC là parce que je suis hyper impatient là.
Ouais.
Là j'ai fini Hotline Miami 2 quasiment, donc j'ai envie d'un jeu dur, mais en même temps un petit peu plus zen, tu vois, que Hotline Miami. Donc,
ouais, tes impressions sur Hotline Miami, qui est un jeu
Mais on y a joué tous les deux avec Mathieu et moi j'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est autant le premier, il était très cool, il était basé sur un concept très sympa, mais qui m'a un peu tombé des mains rapidement parce que ça se répétait trop vite, je trouvais, dans les niveaux. Là, ils ont éclaté la vague, ils ont complètement explosé le concept en faisant un truc beaucoup plus varié, des niveaux beaucoup plus variés, des situations beaucoup plus variées. Il y a une tentative de scénario plus complexe où tu comprends strictement rien, où c'est complètement là vraiment. Là, on est loin dans le délire LSD, ouais, on est assez loin. Une BO toujours dingue, si vous aimez l'électro et la musique années 80, c'est un bonheur. Ouais, super. Enfin voilà, par contre après c'est des fois t'as envie de te taper la tête contre les murs tellement c'est difficile, mais c'est le jeu, hein. Donc
oui, puis après tu reviens tout le temps avec plaisir. Des petites sessions.
Moi j'ai pas accroché.
Il faut... Ouais, bah après c'est
t'as essayé le premier, Patrick?
Ouais, j'ai le premier, j'ai vraiment essayé parce qu'il a fait sensation l'année dernière, je voulais vraiment vraiment comprendre, quoi. Et j'ai essayé un petit peu. Bon, d'une part, c'est comme toi avec Hearthstone, JK, j'y arrive pas. C'est trop. Tu vois, je meurs au bout de deux secondes. Et surtout, j'ai pas envie de. Ça me fait pas envie, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de devenir meilleur. J'accroche pas à l'esthétique, j'accroche pas à l'ambiance, tu vois, c'est très particulier. Donc,
c'est vraiment très particulier
de toute façon, ouais.
Graphiquement, c'est dégueulasse.
Mais là, Ori a l'air beaucoup plus accessible à plein de gens. Et puis d'ailleurs, ça fait l'unanimité, parce que sur plus de 1000 avis sur Steam, il est quasiment à 10. Sur Metacritic, j'ai regardé, il est à 9,1 au niveau des utilisateurs. Tous les tests sont au top. Tout le monde nous dit que la plateforme et l'action est géniale et que l'exploration marche bien. En plus, il est magnifique. Franchement, il n'y a aucune raison de se retenir. Là, je pense qu'il faut y aller. Hein.
Bah moi, je pense que je vais attendre d'avoir ma Xbox One, et je pense que c'est bah, non, mais exactement. Je pense que à un moment, il sera un des jeux Xbox Live Gold, tu vois, d'ici allez 8 mois, 1 an, et je le récupérerai comme ça, je pense. Et d'autant plus que je sais pas encore, mais il y a un nouveau bundle en fait que j'attendais depuis longtemps. C'était la Xbox One plus Halo Master Chief Collection. En bundle, qui est disponible maintenant partout dans le monde. Ouais. Et bon, en plus, Master Chief Collection doit maintenant enfin bien fonctionner au bout de 2 mois, enfin plus ou moins, donc au bout de 2 ou 3 mois. Je pense qu'il y a des gens qui vont se laisser tenter. Hein. Ce bundle n'existait pas, je l'ai cherché, et franchement,
c'est
l'année dernière, je l'aurais acheté.
379 euros, c'est ça ?
379 officiellement. Ouais, ça dépend des lieux, mais chez Amazon, je crois qu'à la Fnac, il est un peu plus cher, mais chez Amazon, non, ou le contraire, je ne sais plus. Bref, je l'ai trouvé à 379.
Ok.
Franchement.
Ça va, effectivement, je pense, ça va faire craquer pas mal de gens.
Ouais, moi, j'hésite vraiment, parce que je sais que je vais me l'acheter avant la fin de l'année, mais c'est surtout pour Tomb Raider. Et du coup, je me dis, est-ce que j'attends pas un éventuel bundle Tomb Raider avec Master Chief qui sera beaucoup moins cher à ce moment ? Enfin, je sais pas. J'hésite encore. Parce qu'il y a aussi derrière je veux m'acheter une GTX 970 parce que maintenant que mon PC est rajeuni, je voulais pas faire toutes les dépenses d'un coup. Je me dis, à un moment, je vais bien m'acheter une GTX 970. D'ailleurs, si vous voyez des deals à un moment sur la GTX, je veux bien que vous m'en...
On te le dira, ouais.
Faites-moi signe.
T'inquiète pas, pas de soucis.
Ouais. Mais bon, je vais voir. Bah ça va pas. Ouais.
Sinon, tu me donnes ton numéro de carte bleue, puis quand je vois un deal, je vous en prends deux. Enfin, ça.
T'inquiète, ouais.
Pas de problème, on fait ça après l'émission.
Fais-nous confiance.
Ça marche.
Aucun problème.
Bon, et sur ces bonnes.
Ah, il est. Voilà. On a perdu. Ah,
sur ce bon.
Excusez-moi.
Mon père Patrick.
Ah non, mais j'en peux plus, là. Ça fait une semaine. Je suis malade tous les jours. Bon, là, ça va encore. La semaine dernière, j'étais complètement à plat. Maintenant, j'ai juste cette toux terrible qui me handicape. Pour un mec qui fait du podcast, c'est un peu
c'est
cool.
C'est ça. Ce qui est dommage, c'est ton métier, c'est de parler derrière un micro. Donc,
Vous voyez, et je me rends compte aujourd'hui qu'en tant que podcasteur professionnel, si je suis malade, il n'y a personne qui va me donner des arrêts maladie et me payer pendant que je ne suis pas au boulot, tu vois.
La sécurité des podcasters n'existe pas encore. On est foutus.
Peut-être que tes Patreon pourraient te payer des congés payés, tu vois, un truc comme ça.
Ça va, ils me payent déjà assez. Ça,
ouais,
ça,
je pense que ça va. Oui.
Ça va, oui. D'ailleurs, merci JK, c'est très sympa.
Oui.
De ta part. Bon, écoutez, on va arriver à la fin de l'émission. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir participé. C'était très sympathique. Effectivement,
merci.
Un petit peu plus court que d'habitude, même si on a dépassé l'heure quand même.
On a fait plus, c'est bien.
Oui, c'est ça. Il vaut mieux plus que moins et que pas assez. Est-ce que vous pourriez me dire où on peut vous retrouver, chers messieurs, sur l'Internet en général quand vous n'êtes pas dans cette émission ? À commencer, ben, honneur au senior, Mathieu.
Ah, oui. Eh ben, sur laruche.com, comme ça se prononce, laruche.com, un site qui parle d'high-tech, de jeux vidéo, et puis de tout ce qui nous intéresse dans la technologie autour de nous, parce qu'on est sur un monde qui est en train de changer autour de la tech, et ben, nous, on en parle.
L'un de mes sites de tech préférés.
Merci,
surtout
Patrick.
parce que j'y vois la tête de JK de temps en temps, tu vois. C'est mon petit plaisir de temps en temps quand je vois dans mes flux RSS. Ah, JK a posté un truc.
Non, Patrick, s'il te plaît.
Bon, vas-y, prends-moi la parole. Dis-moi,
laruche.com également, bien sûr, avec Mathieu Chartier et notre collègue Tanguy Andrion qu'on ne cite pas assez souvent. Oui. Qui est un peu le Mac, qui est le monsieur Mac de la ruche.
Attention, quand tu dis ça, tu dis le Mac. Monsieur Mac.
Attends, on parle d'Apple. Voilà. Monsieur Apple. Et qu'est-ce que je disais ? Oui, donc la ruche, donc, Mathieu en a très bien parlé. Et toujours ZQSD.fr. Le nouveau numéro 22, arrive très bientôt. On l'a enregistré vendredi avec Aurélien Regard, donc, qui était ancien d'Arkedo et qui aujourd'hui fait un jeu qui s'appelle The Next Penelope, qui le développe en solo. Et voilà. Et on est en train, a priori, d'essayer de passer bimensuel. On va essayer d'en faire un tous les 15 jours maintenant. Donc, on garantit, on s'engage pas non plus, hein, totalement, mais on va essayer d'en faire un tous les 15 jours. Donc le prochain sera à la fin du mois.
Mais dis-moi, il y a un autre podcast de jeux vidéo qui est tous les 15 jours. C'est, je pense que j'aurais dû copyrighter.
On va être en concurrence, merde.
Mais ouais, c'est fou, en concurrence.
En fait, on
direct.
A fait exprès. Je pense qu'on va sortir exactement le même jour que toi.
Il faudrait qu'on alterne une semaine sur l'autre, en fait.
Ouais, il faudrait qu'on
se cale. Mais du coup, oui, parce que je me demandais pourquoi vous le sortiez maintenant. On n'est pas à la fin du mois, mais vous passez en vivantiel, d'accord. Très bien.
On va essayer. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'invités sur la rampe, là. D'accord. Et on s'est dit, si on en fait qu'un par mois, on va jamais arriver à avoir tous les gens qu'on veut. Donc on essaie de le faire tous les 15 jours et on espère en tout cas qu'on va tenir ce rythme, parce que c'est pas si évident que ça pour nos foies. Pour nos foies, c'est fatigant.
C'est vrai, je comprends. Et quand est-ce... Alors, j'ai deux questions du coup. Est-ce que, d'une part, est-ce qu'ils feront tous les deux 3h30?
Écoute,
comme tous les autres épisodes.
En fait, la bonne blague, c'est que quand on a enregistré vendredi, on s'est dit, bon, les mecs, là, on va essayer de pas dépasser 2h30 et on a fait 3h30. okay, normalement ils sont censés être plus courts. Là le dernier c'était pas possible. Le problème c'est qu'Aurélien est un mec adorable mais très bavard, donc sa rubrique invité a duré très longtemps, donc voilà.
D'accord. Et la deuxième question c'est quand est-ce que tu me réinvites sur ZQSD?
Ah bah ça après moi il faut
l'approbation du board.
Non mais tu sais maintenant qu'on est tellement célèbre, il va falloir qu'on va en off, mais il y a peut-être un petit chèque à donner derrière, tu vois, si tu veux venir. Bref.
Ok, non mais pas de problème. Moi ZQSD je paye.
Non mais tu reviens quand tu veux, Patrick. Tu sais tu frappes à la porte, t'as même pas besoin de prévenir. Tu frappes à la porte le jour où on enregistre et on t'installe un micro, pas de problème.
Ok. Bon, écoutez, merci à vous deux d'avoir participé. Pour ma part, vous me connaissez, je suis NotePatrick sur Twitter et vous pouvez retrouver les notes de l'émission sur frenchspin.fr. Vous y retrouverez aussi d'autres podcasts, notamment le Rendez-vous Tech qui vous parle de tech tous les 15 jours et qui vous résume toute l'actu de manière compréhensible. Il y a d'autres émissions aussi que vous pourrez découvrir là-bas, c'est sur frenchspin.fr. Ça va être tout pour cet épisode du Rendez-vous Jeu. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un épisode encore plus joyeux. Ça va être dur. À dans 15 jours. Ciao à tous.
Salut.